Et je montre Hortense au pédiatre et il a à peine mis son doigt sur son ventre qui dit « il y a un problème ». Et là, c'est « prenez vos affaires, vous allez tout de suite à l'hôpital Trousseau ».
Quand dans sa vie, on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment ? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Mathilde.
Bonjour Sarah.
Ça va ?
Ça va super.
est-ce que tu peux me dire ton âge ? Je ne sais pas quel âge tu as.
J'ai 33 ans.
T'as 33 ans. Oh, t'es jeune.
Et ouais.
Est-ce que tu peux me raconter quelle étude t'as faite ? Parce que moi, je le sais déjà. Et la particularité de ta formation ?
Alors, moi, je suis à l'école de commerce de La Rochelle.
Ouais.
J'ai à cette époque-là 18 ans. Et je pars, en fait, en mission humanitaire au Népal. Parce que dans le cadre de ma formation, on nous demande d'avoir de faire un stage, en fait, un peu d'engagement civique, comme ils appellent ça, que ce soit en France ou à l'étranger. Et comme moi, j'avais passé déjà 2 mois en Inde, je me suis dit que j'avais trop envie de retourner dans cette partie-là du monde. Et donc, j'ai choisi de faire mon stage au Népal. Et je m'occupe d'enfants qui sont en internat dans une école, où je leur donne des cours et je les surveille, on va dire, pendant l'aide aux devoirs. Et en gros, je m'occupe de toute la partie vraiment... à côté des cours.
Et t'aimes bien ?
Bah écoute, ça me change surtout de mon année, ça me dépayse. Je suis avec un gars de l'école que j'apprécie pas forcément, en fait. On s'est un peu retrouvés là par hasard, on avait choisi la même mission à l'étranger. On apprend à se découvrir et en même temps, ce que je découvre me plaît pas forcément. Donc on va dire qu'ensemble, c'est un peu compliqué. Lui, il est plutôt là pour pouvoir fumer du cannabis gratos. Et du coup, l'ambiance est pas mauvaise parce que je suis quelqu'un quand même de bonne composition, mais on n'est pas meilleurs potes donc je suis
trop... Tu te sens un peu seule ?
Ouais, je me sens un petit peu seule, même si au final les gens de l'asso sont trop cool, les enfants ils sont trop mignons, on parle en anglais, on essaye de leur apprendre des trucs en français, il y a toujours des grands sourires et malgré leurs histoires un peu de vie chaotique pour certains, je prends beaucoup de plaisir à les aider, à leur parler de la France aussi, comment est-ce que nous on vit en France, à découvrir leur culture. On se balade beaucoup dans Katmandou parce que en fait j'attendais de ce stage beaucoup plus d'engagement et je me rends compte qu'on travaille pas beaucoup par rapport à ce que je m'étais imaginé et donc on a beaucoup de temps off et notamment du coup je me repose beaucoup paradoxalement à ce que je pensais.
Et c'est plutôt positif ça.
Bah ouais, mais en même temps, je suis un peu frustrée parce que je suis quand même quelqu'un d'assez qui bouge beaucoup, assez hyperactive. J'aime bien faire plein de trucs et je me retrouve à bosser que les fins de journée et donc les journées sont un peu longues. Et en fait, on oscille entre des journées où on reste un peu à rien faire à la maison et des journées où on va visiter Katmandou. Et ça, c'est trop cool parce que on a du temps pour en profiter, pour aller voir les temples, voilà, un peu faire le touriste. Et ça, c'est sympa.
T'es supposé rester combien de temps là-bas?
Alors, je suis partie pour 3 mois.
Ok.
À la base.
Pourquoi à la base?
À la base, parce qu'en fait, donc, j'ai fêté mes 19 ans au Népal, entourée des enfants et de toute l'équipe de l'ONG. Et 2 jours après mon anniversaire, j'étais justement en repos sur mon lit et je sens comme des fourmillements dans ma main gauche.
Ouais.
Je décide de me lever et j'avais un crayon. En fait, ça m'a marqué parce que j'ai un crayon dans la main et en fait je le lâche et je me dis c'est bizarre, j'ai pas demandé de le lâcher, enfin j'avais vraiment l'impression de le tenir, tu vois.
J'ai pas commandé à mon cerveau.
Non, j'ai pas commandé à mon cerveau de le lâcher. Et au final la journée passe, j'ai pas forcément d'autres alertes. Donc je pars comme tous les jours gérer l'aide aux devoirs avec ce mec de l'école et on se retrouve ensemble où je lui dis quand même que c'est bizarre, je sens un petit peu mon côté gauche engourdi.
Et il te propose quoi en juin?
Non, parce qu'il savait un peu ma position là-dessus. Mais en tout cas, il me dit, oh, c'est bizarre. Donc moi, je lui dis, ouais, j'ai dû me coincer un peu un nerf en dormant parce qu'on dormait dans des lits pas non plus hyper confort avec... Bon, on avait un tout petit matelas. Ouais. Et donc, je me dis, oh, je me suis peut-être coincé un nerf dans le cou à ce moment-là.
Donc, la journée se passe.
J'arrive à l'école et là, je me retrouve dans l'impossibilité d'écrire avec la main gauche. Il faut savoir que moi, je suis gauchère. Donc, j'essaie d'écrire des trucs au tableau avec la main gauche. Ça ne marche pas. J'écris des lettres qui sont complètement déformées. Et là, je me dis, oh, c'est bizarre. Et en même temps, comme je suis un peu ambidex, bah, du coup, je me décide de switcher avec la main droite et je fais toute la séance d'aide au devoir avec la main droite. Et en même temps, je me dis, voilà. Donc, je me pose pas forcément plus de questions, je m'alarme pas plus que ça, mais c'est quand même étrange.
Tu préviens quelqu'un
Non, pas à ce moment-là.
Et à quel moment il y a une évolution de cet état?
Donc le soir, en fait, après l'aide aux devoirs, on devait s'occuper, enfin, on s'occupe des enfants qui font leur toilette, se préparent, vont manger, et ensuite, au moment de repartir, vers 20h, 20h30, le chemin en fait qu'on doit prendre entre notre maison et l'école, on peut le faire à pied, c'est environ à 10 minutes à pied, et donc on a l'habitude tous les soirs on rentre à pied à la maison, et là je trouve que mon pied gauche commence un peu à accrocher le sol, et là je me dis, ah, c'est bizarre, la démarche que j'ai, elle est un peu comme celle de ma grand-mère avec le pied, vous savez, qui traîne un peu au moment de passer le pas. Mais au final, donc moi, j'adore écrire, et donc tous les soirs, j'écris dans mon petit carnet ce qui s'est passé dans ma journée, surtout quand je suis à l'étranger. Et quand je relis, quand je lis en tout cas ces carnets, je me rends compte que vraiment, j'ai écrit, j'ai dû me coincer un nerf, c'est trop bizarre, mon côté gauche commence à être un peu faible, mais vraiment pas plus d'inquiétude que ça, quoi.
Okay.
Et c'est le lendemain matin, quand je me lève du lit, je m'écroule par terre, et en fait là, ma jambe ne me porte plus. Et je me rends compte que ma main gauche ne fonctionne plus, qu'en fait, tout mon côté gauche est comme mort. Donc là, forcément, comme avec Romain, en fait, on dort dans la même chambre. Lui, il se réveille en panique en m'entendant pleurer et m'écrouler par terre. Et donc, c'est lui qui ensuite va prévenir les directeurs de l'ONG et qui va m'aider, en fait, à m'amener à l'hôpital américain de Katmandou.
C'est loin de là où t'es ?
Je pense qu'on met à peu près un quart d'heure pour y aller en voiture, donc c'est pas très très loin.
Et tu penses quoi, là, à ce moment-là ?
Là, franchement, je suis convaincue que je me suis bloqué un nerf.
T'as peur ?
Pas sur le moment. En fait, je suis un peu dans la compréhension. Je me pose quelques questions de quand est-ce que ça va revenir. Et je me dis, je suis dégoûtée, je vais pas pouvoir aller voir les enfants ce soir.
Et là, t'appelles tes parents ? Ou c'est pas
non.
L'heure ? C'est pas
non, je suis hyper proche de mes parents. Et du coup, je me dis, j'ai pas envie de les inquiéter pour l'instant. Il se passe, enfin, en plus, déjà, je pense qu'en termes de décalage horaire, c'est pas le bon timing pour pouvoir les joindre, donc on se dit, on va à l'hôpital, on va faire des examens, et puis on va voir ce qui va se passer.
Donc, t'es accueilli rapidement ou
Oui, je suis vraiment très très bien pris en charge, on m'emmène au scanner, Romain s'occupe vraiment de moi, il commence à faire, je lui donne aussi mon assurance, donc il appelle l'assurance, c'est lui qui se charge un petit peu de toute l'interface administrative, avec aussi les directeurs de l'ONG. Et donc, moi, je suis vraiment...
Il remonte un peu dans mon estime, là.
Non, il a été vraiment super cool à ce moment-là. Il a bien pris en main les choses. Et donc, du coup, je passe un scanner. Et à ce scanner, on m'annonce que j'ai une tumeur au cerveau. Et en fait, en anglais, on utilise le mot « tumor », quoi, en fait. Ouais. Et donc, moi, je suis un peu... Pas dans la compréhension, parce que j'ai raconté plein de fois mon histoire. Je dis, mais non, mais moi, je dors sur un lit qui est pas très confortable. Je me suis coincé un nerf. C'est pour ça que ma main gauche, elle fonctionne pas, que ma jambe gauche, elle fonctionne pas. Et là, on me dit, non, pour l'instant, vous avez quelque chose dans la tête. Vous faites une hémorragie interne. Et là, il me propose de poursuivre les investigations à Katmandou.
OK.
Et donc, à ce moment-là, moi qui ne pensais qu'à une chose, c'est que j'étais plutôt dégoûtée de devoir être à l'hôpital. Je me dis, je commence à prendre conscience que je vais devoir rentrer. Et je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai aucune envie de rentrer. Ça fait seulement un mois que je suis arrivée sur place et il me restait deux mois à faire. Et du coup,
ouais, tu penses pas à ta situation, tu
non,
penses.
J'étais vraiment dégoûtée de devoir partir. Et Et donc, je décide d'appeler l'assurance pour qu'ils puissent organiser mon rapatriement en France. C'est à ce moment-là que je dois appeler mes parents, mais à peine j'entends le son de la voix de mon père, le « Allô », que je suis incapable de parler, je m'effondre en pleurs et vraiment, je suis... Enfin, je sais pas comment leur annoncer ce que je suis en train de vivre à l'autre bout du monde. Et donc, c'est Romain qui prend le relais et qui passe l'appel avec mon père et qui lui explique un peu la situation. Là, tout de suite, mon père me dit qu'il va arriver, qu'il prend l'avion et qu'il me rejoint. Et c'est là où, en fait, je lui dis que non, il faut pas qu'il vienne parce qu'on va se croiser dans les airs, parce que on est en train d'organiser mon rapatriement et qu'en fait, je ne sais pas à quel moment je vais être rapatriée, mais que c'est imminent.
Ouais.
Et donc, je lui dis, ne viens pas, ça sert à rien. Je suis très bien pris en charge à l'hôpital et voilà. Et donc, du coup, mon père décide à contre-cœur de rester en France, m'attendre.
Alors, quand tu arrives en France, comment ça se passe ?
Alors déjà, j'ai mis 7 jours à pouvoir rentrer parce que j'avais, il a fallu attendre le médecin, en fait, qui pouvait m'aider à rentrer, qui m'accompagnait pour rentrer. Donc, tous les jours, on me disait que j'allais rentrer et en fait, je rentrais pas et donc c'était vraiment très long. Et à l'hôpital à Katmandou, en fait, c'est la famille qui s'occupe de la personne, qui s'occupe de le nourrir, de le laver. Tous les à côté, en fait, que par rapport à nous, en France, où on a les aides-soignantes et les infirmières, là-bas, ils gèrent juste la partie médicale. Mais comme j'avais dit que je voulais plus faire du tout d'investigation, en fait, je passais juste mes journées à attendre dans une salle avec 9 autres personnes qui étaient tous plus mal en point les uns que les autres. Et donc les 7 jours ont été vraiment très très longs, mais heureusement j'avais du monde sur place qui m'aidait et qui s'occupait un petit peu de moi. Et donc quand je suis rentrée en France, je suis emmenée à l'hôpital de Rennes, là où habitent mes parents, et je fais un IRM et on m'annonce en fait que j'ai pas une tumeur au cerveau, mais que j'ai fait un AVC suite à une malformation du cerveau.
D'accord. Et donc on imagine... que l'AVC, c'est quelque chose qui doit se prendre en charge avec une immense rapidité. Et donc, toi, ça fait plus de 7 jours que c'est arrivé. Et comment ça se fait que tu sois là à mon micro pour en parler?
En fait, il y a plusieurs types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique qui est l'idée, le fait qu'un caillot se bloque au niveau des artères et donc, du coup, le cerveau n'est plus irrigué. C'est dans ce cas-là où il faut vraiment aller le plus vite possible à l'hôpital. Donc, on dit généralement dans les moins de 3 heures. Pour pouvoir être pris en charge.
D'accord.
Et moi, j'ai fait un AVC hémorragique. C'est-à-dire que dans mon malheur, j'ai mon cerveau qui a toujours été irrigué. Et donc, j'ai pas perdu connaissance. J'ai toujours été en pleine conscience de ce que j'étais en train de vivre. Mais par contre, du coup, ça m'a pas... j'ai toujours eu mes facultés, en fait.
D'accord.
Et la manière où était positionnée ma malformation faisait que ça appuyait sur mon côté gauche. Et donc, c'est pour ça que j'avais plus l'usage de mon côté
pression.
Gauche. Exactement.
Médicalement, ça a été quoi ton parcours après cette découverte?
Après cette découverte, déjà, ils m'ont annoncé que je pouvais pas être opérée dans un premier temps parce que la malformation était trop mal placée. Il y avait un rapport risque-avantage qui était en ma défaveur. Et donc, le médecin me dit, peut-être que la malformation ne sera plus jamais active et que, parce qu'a priori, c'est de naissance ce que j'ai eu. Donc pendant 20 ans il s'est globalement rien passé dans votre cerveau, peut-être que les 20 prochaines années il se passera rien d'autre, donc attendons de voir. Et donc en fait je reviens du Népal, je passe un mois en centre de rééducation le temps que j'arrive à récupérer et que mon cerveau se remette, et puis en septembre je retourne à l'école.
Comme ça?
Ouais, comme ça. Et en fait je repars dans ma vie comme si de rien n'était, je suis juste la survivante du Népal. Et à l'école, on me regarde d'un drôle d'œil quand je raconte mon histoire. Mais en fait, on attend de voir ce qui se passe.
Donc on attend que ça s'aggrave, en fait, concrètement.
Exactement.
C'est ça. Sympa.
Donc je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant environ un an.
Ouais.
Et je me rends compte, en fait, que ma malformation est très active puisque j'enchaîne AVC sur AVC tout au long de ma scolarité.
C'est-à-dire, concrètement, ça se passe comment ?
Comme je vous dis, je fais des hémorragies. Ouais. Donc, c'est-à-dire que mon cerveau est rempli de sang H24.
Mais c'est horrible.
C'était pas cool à vivre.
Et les médecins décident pas de prendre les choses en main à un moment?
À ce moment-là, on décide de tenter une première opération au laser.
Ok.
Où là, on va me fixer un cadre métallique au-dessus de la tête qu'on va me visser dans le crâne, comme Frankenstein.
Comme dans les films, ouais.
Ouais. Et en fait, on me met dans une machine pour qu'on puisse essayer de couper l'irrigation du sang.
T'es éveillée pendant cette opération?
Ouais. J'ai passé 24 heures avec un casque métallique, parce qu'en fait, j'étais la dernière à passer. En fait, c'est des trucs qui se passent à la chaîne. On rentre le matin, on pose le casque, et après, on va dans la machine, et après, on repart, quoi. Mais je pense que ça, c'est clairement la pire, pire opération que j'ai pu vivre de ma vie, parce que, bah, voilà, être attachée à une machine par un casque métallique, c'était un petit peu une émotion très intense à vivre.
C'était douloureux?
On va dire que c'est particulier. J'arrive pas à savoir si c'est de la douleur ou si c'est de la gêne et que c'est désagréable, mais ce qui est certain, c'est que j'ai un peu eu l'impression que mon cerveau l'a explosé.
D'accord, je pense que toi et moi, on est à l'opposé. Moi, je me cogne le petit doigt et c'est la fin du monde. Et toi, t'as une opération du cerveau et pendant 24 heures, t'as un casque en fer. Et tu dis, c'était pas très agréable.
Non, c'était pas très agréable. C'est ça.
La vérité entre les deux, je crois, entre toi et moi. Ça veut dire que comme dans les films, quand tu passes dans cette machine, on te donne des indications, on te demande si tu ressens quelque chose, ou c'est pas le sujet
Non, là, c'est, à ce moment-là, c'est pas le sujet. Là, en fait, on passe dans une machine pendant une heure et demie, j'ai une sorte de laser qui va faire le tour de ma malformation pour essayer de couper tous les liens avec les D'accord. vaisseaux sanguins.
Et ça marche?
Et ben en fait, ça n'a pas l'effet escompté, parce que ça reste un truc un peu expérimental. Et en gros, au lieu de diminuer ma malformation, ça l'a augmenté Oh, je vais pas le dire.
Je veux pas le couper.
Ça l'a augmenté significativement. Et donc, en fait, je suis passée de 1 cm de diamètre à 3 cm de diamètre.
Bien joué.
Et en fait, ce qui m'a quand même permis une chose, c'est de pouvoir me faire opérer. Parce que du coup, à ce moment-là, le ratio était bah, en fait en ma faveur.
D'accord. Et donc, tu as une deuxième opération?
Donc, j'ai une deuxième opération. Et là, cette fois-ci, à cerveau ouvert, si je puis dire, on m'a ouvert la boîte crânienne pour venir retirer manuellement ma malformation dans l'espoir que ça permette de régler le problème.
Donc là, c'est fini? Le problème est réglé?
Écoute, je ne sais pas si on peut dire que le problème est réglé, mais en tout cas, l'opération est un succès. Ouais. Et je passe 6 mois en centre de rééducation à essayer de tout réapprendre parce que quand on m'annonce ce choix d'opération, on me dit, t'as deux solutions. Soit tu restes comme ça et tu vas devenir handicapé parce que ta malformation, elle arrêtera jamais de... Elle est très active. Soit on fait cette opération, mais par contre, t'as un fort risque de devenir handicapé. Et on m'annonce que je devienne aveugle, que je parle peut-être plus, que je suis en fauteuil roulant toute ma vie, que j'ai plus d'usage de la main gauche, que globalement, je serai lourdement handicapée. Et pour autant, ça fait un an et demi que je vis avec une malformation dans le cerveau et une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je me dis, je peux pas continuer de vivre comme ça parce que c'est pas une vie, en fait. J'ai peur à chaque instant de faire un AVC plus fort qu'un autre. Je préfère être lourdement handicapée, mais être guérie, que continuer d'être malade. Ouais. Et dans ma tête, j'ai même pas pris 5 minutes de réflexion, j'ai dit je veux être opérée, direct.
D'accord. Oui, et puis t'es jeune, t'es en bonne santé par ailleurs, t'as plus de, statistiquement, des chances de te remettre.
De récupérer, ouais.
Et donc tu récupères bien après ces 6 mois?
Bah déjà, je m'en sors plutôt pas mal, je trouve, ouais. Au final. Je sors de l'opération, je peux plus marcher. Moi, j'étais gauchère, donc je suis totalement dépendante de tout. Ma mère me lave. Je retourne vivre chez mes parents, j'arrive plus à écrire, j'arrive plus à conduire, je peux plus rien faire. Et en 6 mois, je récupère un maximum, ce qui fait que je reste hémiplégique parce que ma main gauche ne fonctionne plus et que je marche avec un releveur en carbone pour m'aider à marcher.
Ouais.
Mais par contre, je suis autonome.
C'est quoi? C'est comme une attelle?
Ouais, c'est comme une attelle.
Ok.
Et en fait, mon objectif, c'était d'être autonome, de pouvoir vivre seule, de pouvoir me gérer, finir mes études. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu cette opération pendant mon année de césure.
D'accord.
Et donc, du coup, au lieu de partir 6 mois en stage en Irlande, je pars 6 mois en centre de rééducation, ce qui est quand même globalement un peu la même chose, parce que ça reste un petit peu un cadre étranger. Et
t'as fait un rapport à la fin?
Effectivement. J'aurais dû.
Un mémoire. Alors, la cantine, c'était pas bon.
Franchement, j'étais dans un... À ce moment-là, je suis dans un établissement pour les jeunes. Et du ouais. coup, l'ambiance est vraiment bonne. Les kinés sont hyper sympas, tout le monde est, enfin, je suis vraiment super bien pris en charge et ça aide pour le moral quand même.
Et donc tu finis tes études, t'as eu ces deux opérations, tu es guérie, t'as un statu quo où ce que tu nous as décrit, mais t'es guérie. Je suis vieille, donc j'ai une des références de vieille, j'ai pour toi la vie va commencer.
Et ben c'est un peu le sentiment que j'ai vraiment l'impression d'être dans ma deuxième vie. que ma deuxième vie commence à cet instant T, puisque je prends la décision, en fait, je retourne dans mes études pour terminer ma dernière année.
Okay.
Et je prends la décision de réorienter tout mon projet professionnel parce que je voulais bosser dans le tourisme. Et au final, après tout ce qui s'est passé, je me dis, je vais faire un mémoire de fin d'études sur la prise en compte du handicap en entreprise pour un petit peu essayer de découvrir dans quel environnement je vais me retrouver pour trouver du boulot et quelle est la place des personnes handicapées dans la société, en fait. Et donc, je commence à me dire que ça va vraiment être ma mission de vie, d'œuvrer pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, que si je suis devenue handicapée, c'est pas pour rien, et que je vais en faire quelque chose de beau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté depuis.
Et ta vie personnelle, c'est quoi à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, je sors avec un mec qui traverse avec moi l'épreuve, on va dire, de l'opération.
Okay.
Sauf qu'on est à distance parce que c'est la période, je vous dis, de césure. Donc, du coup, lui, il est en Belgique. Moi, je suis à Rennes. Et en fait, je vois bien que c'est compliqué pour lui de gérer cette partie-là. Quand on se dit au revoir avant mon opération, on ne sait pas dans quel état il va me retrouver après. Et je me souviens parce que quand je me réveille de la salle d'opération, je demande à mon père si je peux l'appeler en pleine salle de réveil. Et en fait, mon père me passe le téléphone, je l'appelle et moi j'ai l'impression de lui parler comme je parle avec toi. Et en fait, il m'annonce après qu'il avait rien compris de ce que je disais. Et donc c'est pour ça que j'ai la surprise de le voir débarquer le lendemain. Il était venu de Bruxelles pour venir me voir. Voir un petit peu dans quel état j'étais vraiment et que je lui mente pas sur les séquelles annoncées. Et en fait, je pense que la chance que j'ai, c'est que à ce moment-là, on reste ensemble et il reste à mes côtés on est resté quand même ensemble trois ans. Donc, en fait, le handicap n'est pas un sujet pour lui. Il m'aime et malgré le handicap, il m'aime toujours, il m'aime pour ce que je suis. Et donc, en fait, notre relation m'aide énormément, pour accepter la nouvelle Mathilde, quoi.
Ouais.
Et ça, je pense que même si notre histoire est terminée depuis, ça restera toujours un élément marqueur dans ma reconstruction de ma deuxième vie.
Tu sais que c'est exceptionnel, statistiquement.
Je sais.
Un type qui part en courant.
Exactement. Et j'ai beaucoup de chance parce que tout mon entourage est hyper bienveillant, tout le monde est à mes côtés, je reçois plein de petits mots de plein de gens qui m'aident, qui m'encouragent, mes anciens maîtres de stage, les gens de l'école, la direction de l'école.
Tu te sens entourée.
Je me sens aimée de ouf par plein de gens et tout le monde est avec moi dans ma convalescence et je pense que c'est cette participation et cet optimisme de tout le monde que j'allais réussir à reprendre le dessus qui m'a aidé plutôt que si je m'étais retrouvée avec plus personne autour de moi.
T'as quel âge à ce moment-là?
À ce moment-là, j'ai 21 ans. Et en fait, je termine l'école. J'arrive à être diplômée en même temps que tous mes copains. Donc, je suis trop contente. Et c'est la grande aventure. Déjà, je pars 6 mois à Londres en stage et puis je pars à Paris après pour travailler et chercher du boulot.
Donc ça y est, la vie est belle.
Oui, la vie, elle est plutôt belle, ça c'est sûr. Je me sens en pleine capacité de mes moyens, je suis positive, je suis optimiste, je trouve un taf dans une association qui gère les personnes handicapées, j'ai un boulot qui a du sens, j'ai mon copain, j'ai ma famille dont tout le monde va bien et donc effectivement... Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Bon, comme tu l'as dit, ton histoire va pas durer avec avec le Belge. c'est comme ça, on s'est fait un entrée. Hein. mais quand même, tu vas rencontrer, tu me dis quoi, 26 ans,
ouais.
Ça, ton futur mari, et vous vivez une histoire d'amour et c'est la fin de l'épisode, non?
Si seulement, si seulement. Mais c'est quand même. Un bel premier épisode, mais effectivement, je rencontre Jean-Charles, du coup, mon mari, grâce à Tinder. Et en fait, lui...
Je vais leur demander un sponsoring.
Grave. Et en fait, lui, il me rencontre et il met un peu de temps avant de réaliser que je suis la femme de sa vie. Bon, parce que pour lui, je suis surtout la bonne copine. On passe 6 mois fabuleux à sortir partout dans Paris et à être les meilleurs amis du monde. Et en fait, je pense qu'il avait besoin de temps aussi pour assimiler le fait que je pouvais être plus qu'une bonne copine, puisque Je me dis toujours que tomber amoureux d'une personne handicapée, c'est pas le but ultime dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de freins qu'on peut se mettre et de barrières parce que c'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais que l'amour au final n'a pas de barrières et que il a finalement réalisé que j'étais la femme de sa vie puisque un an après notre rencontre, il m'a demandé un mariage.
Tu dis quoi?
Je dis oui, même si je lui dis, au début, je pense que c'est une blague, du coup, je lui dis, mais attends, si tu me demandes en mariage, il faut que tu me fasses un discours, quand même. Et donc là, il me sort le plus beau des discours, je pleure toutes les larmes de mon corps, parce que quand j'ai quitté mon ex-copain, j'étais persuadée que j'allais finir vieille fille seule avec mes chats et que personne ne pourrait tomber amoureuse d'une personne handicapée. J'avais un peu cette notion-là en tête de me dire,
c'est la fin, c'est mort. C'est pas pour moi, quoi.
Oui, parce que je me disais que le Belge, comme tu l'appelles, il était tombé amoureux de moi avant le handicap et que il était bloqué avec moi parce qu'il était amoureux de moi et que en fait que c'était pas possible de tomber amoureux de quelqu'un qui était différent et qui allait avoir peut-être des limitations dans sa vie. Et au final, je pense que mon handicap se voit peu et c'est vrai que Jean-Charles il m'a toujours dit mais je t'ai jamais vu comme une personne handicapée. Des fois à ma défaveur puisque du coup je suis toujours un peu en train de compenser et de donner plus pour essayer de faire comme tout le monde même si du coup ça n'a pas empêché les sentiments de naître
et pas que les sentiments
non effectivement puisque Hortense est née en octobre 2019
Tu as combien d'enfants
in fine j'ai deux enfants
et donc mais en premier t'as une petite minette
oui.
Et t'arrives à t'en occuper, bien sûr que t'arrives à t'en occuper, mais est-ce que c'est compliqué de t'en occuper avec ton handicap?
En fait, je pense que j'avais plus, je pense que à ce moment-là, j'ai plus peur d'accoucher et de comment je vais pouvoir accoucher, parce que je connais aucune femme handicapée qui a accouché avant moi, plutôt que de me dire est-ce que je vais réussir à la gérer. En fait, je me suis jamais posé cette question-là. Je me suis toujours dit, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui ont plein de handicaps, qui sont parents. Il n'y a pas de raison que moi, qui arrive à me gérer maintenant, je puisse pas gérer un enfant. Par contre, accoucher, j'avoue que j'avais un peu des interrogations et je me suis d'ailleurs fait refuser par 3 maternités avant de trouver la maternité dans laquelle j'ai pu accoucher parce qu'ils avaient trop tous peur que je refasse un AVC et qu'ils savaient pas comment gérer le cas si c'était le cas.
D'accord, mais ça s'est bien passé.
Au final, l'accouchement s'est très bien passé.
Et ces premiers mois de vie sont cool. Vous découvrez ce que c'est que de pas dormir, tout ça.
On va dire qu'on est les plus heureux parents du monde, même si moi je me sens quand même vraiment très seule. Je suis une des premières de mes copines à être maman. Mon autre copine maman de Paris, elle habite pas du tout à côté de moi et en plus son congé mat se termine quand moi je commence à mon congé mat. Et en fait, je me sens terriblement seule et je n'ose pas prendre le métro parce que je peux pas porter une poussette. J'ai peur d'être en porte-bébé avec elle parce que j'ai peur de tomber. Je me rends compte quand même qu'il y a certains gestes qui me font un peu flipper, comme notamment le bain. Et je me retrouve quand même toute seule la journée puisque Jean-Charles est au travail la journée. À ce moment-là, c'était encore full présentiel dans la vie en 2019.
Ouais. Et puis un jour, il y a un truc qui t'alerte.
Et puis un jour, il y a un truc qui m'alerte. On est pendant le premier confinement. Je trouve qu'Hortense a commencé à avoir le ventre qui gonfle. Enfin, je trouve qu'elle a un gros ventre, pour faire simple. Elle a un gros ventre et qui est dur. Mais on est en plein confinement, on voit personne. C'est difficile de montrer le ventre de son enfant en visio à sa belle-mère. Le pédiatre a fermé. Et Hortense va très bien, dans le sens où elle mange, elle dort, elle rigole. C'est une enfant normale, en fait. Mais elle a ce gros ventre qui fait qu'elle bouge peu. Et quand on l'a... Donc c'est très pratique pour travailler en télétravail, parce que quand on la met dans un coin, elle bouge pas. Elle reste assise et elle bouge pas, elle joue tranquille. C'est une enfant qui dort beaucoup. Et du coup, nous, on s'alarme pas trop, jusqu'au moment où son nombril ressort. Et là, ça me fait vraiment penser à moi quand j'étais enceinte d'elle et que au 9e mois mon nombril est sorti quoi. Et donc j'en parle à Jean-Charles me dit oui oui c'est vrai c'est bizarre mais ça l'inquiète pas plus que ça. À un moment donné à la fin du confinement Hortense retourne à la crèche. On en parle avec la crèche qui nous dit oui c'est peut-être qu'elle a des gaz ou qu'elle a des problèmes de constipation. Donc ça me turlupine quand même beaucoup. Et pour le rendez-vous des 9 mois, j'ai ce rendez-vous avec le pédiatre, moi avec quand même un peu d'inquiétude, Jean-Charles plutôt serein. Et je montre Hortense au pédiatre et il a à peine mis son doigt sur son ventre qui dit « il y a un problème, elle a un gros foie ». Et là, c'est « prenez vos affaires, vous allez tout de suite à l'hôpital Trousseau ». Et donc, j'appelle Jean-Charles, parce que du coup, on pouvait plus être à deux parents maintenant. Donc, Jean-Charles nous attendait dehors. Donc là, j'appelle Jean-Charles. Je lui dis qu'il faut qu'il passe à la maison récupérer des affaires, qu'on part à Trousseau en urgence. On n'avait pas de voiture à cette époque-là. On prenait pas trop le métro. Enfin, du coup, on part à pied à l'hôpital. Et on arrive au service d'urgence de l'hôpital Trousseau. Et commence un peu l'enfer sur Terre. Puisqu'on va passer 3 semaines dans cet hôpital-là. En pleine canicule, il y a pas de clim, l'hôpital, tout le monde nous a bien pris en charge, mais les conditions étaient vraiment spartiates. Et en fait, Hortense, on la pique de tous les côtés pour faire un maximum de tests, et tous les tests reviennent négatifs, et on évacue test après test toutes les maladies du foie possibles et inimaginables.
Comme quoi, par exemple?
L'hépatite, des problématiques, au début des problèmes bénins. Puis après on parle de leucémie, on parle de cancer, on lui fait une ponction lombaire. En fait, on a arrêté de calculer le nombre de tubes qui a été pris quand on a dépassé la barre des 100. Et en fait, Hortense à cette époque-là, bah du coup elle a 9 mois. Donc pour un aussi petit bébé, se faire piquer tous les jours, prélever autant de tubes de sang. En fait, ma fille qui était hyper souriante, je la reconnais plus parce que même quand on essaie de la faire rire, elle ne sourit plus. Et là, elle perd son sourire à ce moment-là. Je pense que c'est ça le plus difficile pour une mère, de voir son enfant s'éteindre en fait. Et surtout qu'on ne comprend pas ce qui lui arrive puisque aucune réponse n'est apportée. Et moi, je me dis mais jusqu'où ça va aller parce qu'on est en train d'évacuer. Ok, c'est rassurant, beaucoup de maladies, mais qu'est-ce qui va arriver in fine? Jusqu'où on va aller. Et donc, en fait, on a été transféré au Kremlin Bicêtre, qui est le centre de référence du foie, pour faire une biopsie, parce que on n'avait plus le choix. Il fallait prélever un morceau de foie pour voir ce qu'il allait résulter de cette maladie. Là, à ce moment-là, on est en juillet 2020. On nous dit de rentrer, de partir en vacances comme prévu, que de toute façon, là, on attend les résultats et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Elle commence à avoir des médicaments, mais c'est rien par rapport à ce qu'on a eu après. Et on nous donne rendez-vous en mi-août pour revenir pour les résultats. Et en fait, quand on revient au Kremlin Bicêtre mi-août, on nous annonce que ce qu'ils soupçonnaient, qui est la glycogénèse de type 4, en fait, on ne peut pas le confirmer pour l'instant. Mais que dans tous les cas, vu l'état de son foie, il faut la greffer. Donc on repart de ce rendez-vous avec juste la notion que Hortense ne vivra pas l'année 2020 si elle n'a pas de greffe.
Et vous lui dites ça ou...
Ouais, elle passera pas Noël. Et donc ça, à encaisser, c'est...
Inhumain.
C'est inhumain. Donc à ce moment-là, on avait prévu des vacances en Bretagne chez mes parents avec toute ma belle famille. Je ne sais pas pourquoi c'était fait avant. Et donc on se retrouve tous ensemble en tribu avec les parents de Jean-Charles, ses frères, moi, mon frère, ma sœur, mes parents. Et on décide d'organiser le baptême d'Hortense un peu à la va-vite. En 2 jours, c'était organisé et on a pu la baptiser en prévention de cette greffe. Et on est mis sur la liste d'attente des greffés. Faut savoir que en parallèle, Jean-Charles passe les tests. Moi, comme je suis handicapée, j'ai pas le droit, mais Jean-Charles passe les tests pour être donneur, sachant qu'en France, on privilégie les dons cadavériques que les dons vivants.
Ça veut dire que on attend qu'il y ait quelqu'un qui décède.
Exactement.
D'accord.
Sauf que on est en 2020, en pleine pandémie mondiale, que plus personne ne sort trop de chez lui et que on se retrouve dans le deuxième confinement au mois d'octobre 2020. Et pendant qu'on est sur la liste d'attente, en fait, il n'y a plus d'accidentés de la route, donc il n'y a plus de greffons. Et la chance qu'on a dans notre malheur, c'est que Jean-Charles est compatible parce que on a été placé en liste super urgente où normalement, en 24-48 heures, on a un organe. Et là, le premier de la liste, ça fait 6 semaines qu'il était dessus. Et nous, on était en 6e position et on nous a clairement dit qu'on n'attendrait pas notre tour, que Hortense, ce serait trop tard pour elle. Et donc, du coup, Jean-Charles...
Mais il ne se pose pas la question, il y va.
Non, il ne se pose pas la question. Il y va. Et mon mari, je pense, c'est l'homme le plus courageux que je connaisse, puisque c'était sa première opération de toute sa vie. Et sa première opération, c'est de donner son lobe gauche à sa fille pour la faire vivre.
Et c'est une chance quand un parent est compatible.
C'est une chance quand un parent est compatible parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était une chance d'avoir quelqu'un auprès de moi qui était prêt à faire ce sacrifice. Parce que dans le bâtiment, il y avait des pères qui étaient compatibles et qui refusaient ce don parce qu'ils avaient trop peur. Et donc c'est là où je trouve que mon mari a vraiment fait un don de soi magnifique et a permis de faire renaître Hortense. Et c'est grâce à lui qu'elle est là aujourd'hui. Donc je le remercie pour ce sacrifice.
Lui aussi, il a donné naissance à ta fille.
Exactement. On a tous les deux les marques de la naissance de notre fille sur le corps parce que lui, il a une petite trace de césarienne. Moi, j'ai 3 vergetures et lui, sa césarienne.
Donc, l'opération se passe bien.
L'opération se passe bien. Ce que je redoutais, c'est... Enfin, en fait, je redoutais vraiment cette opération parce que je me disais, je vais me retrouver toute seule pendant que les deux sont en bloc. Et que
je peux perdre toute ma vie, quoi.
Je peux perdre effectivement les deux personnes que j'aime le plus au monde sur cette terre, cette journée du 4 novembre 2020. Et alors que je pensais que j'allais passer une journée horrible, ben, au final, mes parents étaient avec moi, avec ma sœur, ils m'ont organisé une super journée, on a mangé une raclette, on a fait une séance de sophro, j'ai pu faire la sieste, mes copines m'avaient envoyé des chocolats magnifiques. Un super bon chocolatier.
On peut faire un genou avec crise de foie ou pas?
Ah bah ça, on peut. Et en fait, du coup, j'avoue que j'ai passé une journée remplie d'amour. Et sur Instagram, tout le monde m'envoyait des messages. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas... cette journée peut pas mal se terminer. J'avais tellement peur que la grève de foie n'ait pas lieu parce qu'à tout moment, on peut tout annuler à cause d'une fièvre, à cause d'un problème de transport. Enfin, jusqu'à temps que l'enfant n'est pas dans le bloc ouverte pour changer l'organe, tout peut s'annuler. Et donc c'est vrai que j'étais tellement soulagée de la savoir au bloc, ça a duré 12 heures, donc c'était quand même très long, mais j'ai vite eu des nouvelles de Jean-Charles, parce qu'en plus il n'était pas opéré au même hôpital, à Paris c'est pas au même hôpital qu'on fait les opérations, donc j'en avais un dans le nord de Paris et l'autre dans le sud, donc j'ai dû un peu me répartir entre les deux, aller les voir, mais Hortense est sortie du bloc à 22 heures cette journée-là. Et j'ai pu l'avoir à 2h du matin, je crois, branchée de partout. Et cette petite fille est vraiment exceptionnelle, puisque donc elle s'est fait opérer le 4 novembre 2020. Et en un mois, on était rentrés à la maison. 2 semaines après, elle était déjà sur le ventre en train de ramper, elle qui n'avait jamais rampé de sa vie. Quand une infirmière passait dans la chambre en disant « Mais elle est où la petite greffée ?» et qu'elle voyait Hortense, elle hallucinait, quoi, en fait.
On ne doit pas être en chambre stérile après une greffe ?
On a passé 10 jours en centre de réanimation. Donc là, en plus, avec le Covid, c'était full protection. Okay. On était avec tous les
amas. Ouais, comme un astronaute.
Exactement. On était bien équipés. Et après, on était en chambre classique, en bateau. Et donc, on a pu rentrer à la maison, fêter Noël.
Donc, toutes les deux, vous avez une capacité à vous remettre sur pied rapidement, hallucinante.
En fait, je me suis toujours... promis que j'allais pas faire... En fait, j'ai passé énormément de temps avec Hortense à l'hôpital, puisque Jean-Charles travaillait encore, il a sa boîte, et du coup, il devait mettre en ordre ses affaires en vue de la greffe. Et donc, j'étais tout le temps avec Hortense, et même si c'était vraiment, je pense, la pire période de toute ma vie, encore plus difficile qu'un AVC au Népal, que des jours en centre de rééducation, c'était horrible de voir ma fille là... entre la vie et la mort, mais qui était pleine de vie, paradoxalement. Et je me suis toujours dit que j'allais lui faire vivre des journées exceptionnelles, et que la vie, c'était la fête, et que j'allais lui donner toutes les raisons de vouloir se battre pour continuer à vivre. Et donc, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps toutes les nuits, mais les journées, je rigolais à pleine bouche, et on dansait, et on mangeait du chocolat, pour justement que ce lien soit tellement fort qu'elle n'ait pas envie de nous quitter si jamais un jour... À un moment donné, l'opération, c'était compliqué pour elle. Et on a eu de la chance, tout s'est très très bien passé. On a des médecins en or, des équipes soignantes qui étaient dévouées, et je les remercie parce que c'était incroyable cette prise en charge. Mais c'est des personnes qui donnent leur vie pour les autres, et franchement, c'est, en tant que parent, et d'avoir son enfant qui a été sauvé moi j'ai été sauvée et elle aussi elle a été sauvée. Je n'ose même pas imaginer le prix qu'on a coûté à la société, mais en tout cas j'ai une immense gratitude pour tout le personnel soignant et tous les gens qui travaillent dans l'administration des soins de santé parce que ils nous ont sauvé la vie, quoi.
J'aurais pas dit mieux. Ouais. Tu sais ce que j'en pense.
Je sais.
Et elle a quel âge aujourd'hui, Hortense?
Hortense, elle a 4 ans maintenant.
Et elle a quoi au quotidien comme conséquence de son handicap, enfin de son, sa greffe, je sais pas comment si on,
ouais,
si on dit handicap.
Okay. Ouais, elle est reconnue en étant handicapée, donc on en parle beaucoup de handicap parce qu'elle dit qu'elle est pas handicapée. Alors je lui explique qu'être handicapée c'est pas grave, qu'elle peut quand même faire plein de trucs. On a plein de discussions intéressantes parce que on est quand même maintenant autant de personnes handicapées que de personnes non handicapées dans cette famille, donc on est à parité égale. Et Hortense, elle a donc du coup des médicaments anti-rejet pour éviter que son greffon soit rejetée de son corps, donc le matin et le soir, avec des jeûnes où elle peut pas manger à une heure avant, une heure après chaque prise de médicaments. Mais globalement, on a beaucoup de chance parce qu'elle a eu deux crises de rejet et une cholangioscopie, donc c'est un problème avec la bile, en 3 ans de greffe, ce qui est rien du tout.
D'accord.
Alors c'est sûr qu'on passe beaucoup plus de temps à l'hôpital, j'y étais encore mercredi, on a beaucoup de contrôles, toujours des échographies, des prises de sang. Mais paradoxalement, elle aime bien l'hôpital. Elle adore retourner à l'hôpital, on est tout le temps au même, et du coup, elle sait, elle connaît les gens, elle connaît la salle de jeu, qui est une caverne d'Alibaba. Et donc, en fait, dès qu'on va à l'hôpital, elle est plutôt contente. Donc, elle a un rapport assez particulier à cet endroit, qui est un peu comme notre deuxième maison, puisque effectivement, même moi, quand j'y vais, j'ai l'impression d'être à la maison. J'ai passé tellement de temps, le confinement, le deuxième confinement, je l'ai passé dans cette chambre de 10 mètres carrés. Je n'ai pas fait du pain, moi, à domicile, où vous testez toutes les recettes de pâtes. Moi, j'étais dans 10 mètres carrés avec les toilettes et la salle de bain, en train de gérer ma fille. Et donc, c'est vrai que cet endroit, il y a un lien qui fait qu'on s'y sent bien et en même temps qu'on déteste. Et ça fait un peu une ambivalence particulière.
Je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que les médecins te disent de l'avenir de ta fille?
Je pense qu'on n'a pas trop... En fait, on ne se pose pas trop ces questions. On est plutôt en mode, on vit au jour le jour et on profite de chaque instant et on essaye de kiffer un maximum. Mais a priori, les greffes pédiatriques ont une 30aine d'années de recul. Les premiers greffés commencent à peine à devoir peut-être subir des nouvelles greffes. Je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'elle resubisse une greffe au cours de sa vie parce qu'elle a été greffée très très jeune. Donc c'est, il y a peu de chances que le greffon tienne 70-80 ans. Enfin, je sais.
D'accord.
Mais on ne sait pas. En fait, peut-être que oui, peut-être que non. Jean-Charles dira qu'elle a un greffon de compète et que et qu'elle pourra boire des litres d'alcool sans problème. Qu'il a été bien entraîné. Mais on se pose pas trop ce genre de questions. Je pense que moi, pour moi, l'essentiel, c'est qu'elle évolue sans différence et en se rendant compte que tout ce qu'elle a traversé, ça lui donne de la force et que c'est un petit peu mon petit bébé guerrier. Elle est forte et elle est courageuse et que c'est pas donné à tout le monde d'être forte et courageuse.